L'armée officielle des États-Unis est-il aussi le principal soutien des talibans via ses services secrets? La vérité ne souffre aucun doute, mais y a-t-il pour Islamabad de bons et de mauvais talibans?
Tous les samedis à 13h20, rendez-vous avec X. France Inter et France Télévisions, partenaires de l'exposition Basquiat jusqu'au 30 janvier 2011 au Musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est une vaste rétrospective, la première de cette envergure présentée en France à l'artiste américain Jean-Michel Basquiat à l'occasion du 50e anniversaire de sa naissance. Retrouvez l'exposition Basquiat dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Oui, je voudrais vous parler de quelqu'un qui est une victime de la réforme des retraites. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé depuis très jeune, toute sa vie, qui a adopté une petite fille, qui est marié, qui travaille beaucoup, qui a été hospitalisé l'année dernière, mais qui malgré tout, il a 67 ans, il est obligé de retravailler. Donc il fait des petits boulots, hein, il est un peu intermittent du spectacle, il fait faire un peu de scène. C'est pas facile pour lui, quoi. Il pensait lui-même ou lui aussi qu'il pourrait s'arrêter de travailler, mais non, il faut qu'il y retourne, hein, il peut pas faire autrement. Donc je pense qu'il faut qu'on se mobilise, hein, c'est important. On pourra se réunir ensemble en 2011 et en 2012 pour aller soutenir. Hein. Je vous donne son nom, hein, c'est quelqu'un d'un peu connu, il s'appelle Johnny Hallyday. Voilà.
Oui, bonjour, voilà, suite à votre émission avec le monde diplomatique. Je voulais vous dire, par rapport à ce terme islamophobie, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, hein. Que les gens aient peur de l'islam ou il n'y a rien de grave là-dedans. Islamophobie, judéophobie, christianophobie, on a le droit d'avoir peur d'une religion, parce que c'est ça que le mot veut dire. Mais je pense que ce qui se passe réellement en France et dans ces pays d'Europe que vous avez cités, c'est bien pire que ça. C'est vraiment le vieux racisme haineux qui est revenu, mais cette fois sur les musulmans, avec comme paravent la religion. Évidemment, ça passe mieux dans les médias.
Salut Daniel. Paraît-il, la TVA sur les livres va baisser. C'est une bonne chose parce que c'est un marché vraiment en crise et ça serait important de le soutenir. Je me permets donc de soumettre une petite liste aux AMG de bons bouquins qui vont bientôt sortir et qui s'annoncent tous très bons. Alors, Les Fleurs du Mal de Patrick Poivre d'Arvor, Madame Bovary de Patrick Poivre d'Arvor, À la recherche du temps perdu de Patrick Poivre d'Arvor, Frankenstein de Patrick Poivre d'Arvor, La République de Patrick Poivre d'Arvor, Mémoire d'outre-tombe de Patrick Poivre d'Arvor, Le Tao Te King de Patrick Poivre d'Arvor, San Antonio chez les Gones de Patrick Poivre d'Arvor, Mémoire de guerre de Patrick Poivre d'Arvor, La Bible de Patrick Poivre d'Arvor, Voyage au bout de la nuit de Patrick Poivre d'Arvor, La Torah de Patrick Poivre d'Arvor, Guerre et paix de Patrick Poivre d'Arvor, Le chien des Baskerville de Patrick Poivre d'Arvor, Le Coran de Patrick Poivre d'Arvor, La Cerisée de Patrick Poivre d'Arvor, Le Capital de Patrick Poivre d'Arvor, Lolita de Patrick Poivre d'Arvor, Parole de Patrick Poivre d'Arvor, Les Confessions de Patrick Poivre d'Arvor, La Nausée de Patrick Poivre d'Arvor, Les Oraisons funèbres de Patrick Poivre d'Arvor, Les Misérables de Patrick Poivre d'Arvor, Don Quichotte de Patrick Poivre d'Arvor.
Bonjour, c'est Roger en Gironde. D'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les auditeurs de France Inter et à tous les animateurs de France Inter. Ensuite, en écoutant votre émission hier, j'ai eu une petite idée, parce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a deux gouvernements. Et en écoutant les infos aussi hier soir, je me suis rendu compte qu'en Belgique, il n'y en avait pas du tout depuis 6 mois. Peut-être qu'on pourrait envoyer un des gouvernements, pourquoi pas celui de Gbagbo, en Belgique. Après tout, ce serait peut-être un juste retour des choses. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est pas le Gabon, mais enfin, il y a quand même des antécédents entre la Belgique et une partie de l'Afrique. Bon, c'était une idée comme ça en passant. Allez, à bientôt.
Bonjour. Ce matin sur France Inter, vers 6h45, Monsieur Roquette, directeur de la rédaction de Vers Actuels, excusez du peu, a expliqué pourquoi les 35 heures et les coûts du travail en France sont nocifs pour notre économie. Les Français travaillent moins que les Allemands, le coût du travail est plus compétitif en Allemagne, etc. C'est un discours qui est archi répandu et très consensuel au point que plus personne n'éprouve le besoin de l'étayer en citant des sources fiables. Le problème est que ce discours est sans doute faux, qu'il existe des études indépendantes qui établissent sans l'ombre d'un doute que le coût du travail en France, 35 heures et congés payés inclus, est en moyenne de 15 à 20% inférieur à celui qui a cours en Allemagne. L'une de ces études, c'est celle d'un cabinet comptable suisse, donc pas vraiment des gauchistes, qui est disponible sur www.choixconcurrentiel.com. C'est une étude qui réside tous les deux ans depuis 2002, qui est destinée à guider les décideurs, s'il n'y a pas vraiment des gauchistes non plus, dans leur choix d'implantation. Le différentiel de compétitivité entre la France et l'Allemagne, établi sur une quarantaine de secteurs d'activité, est toujours en faveur de la France depuis maintenant 10 ans et tourne aux alentours de 2 à 3 %, ce qui est énorme. Il est vrai que les performances économiques de l'Allemagne sont bien supérieures aux nôtres, mais les causes n'en sont ni le coût, ni la durée du travail en France, et ça mérite d'être dit haut et fort.
Et c'est dit haut et fort. Merci, chers AMG, grâce à vous. Nous n'avons jamais les oreilles loin du front. Parmi les auditeurs et les collaborateurs de là-bas, si j'y suis, merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous, on a vu très souvent ces images poignantes des tours qui s'écroulent. Hein, ça, c'est un moment fort quand même, hein, des tours qui s'écroulent, des bars d'anciens HLM qui s'effondrent, et puis les habitants qui sont devant, qui observent ça avec la larme à l'œil, leur souvenir. Ah là là, c'est là qu'on a vécu, ben voilà. Mais enfin, voilà, c'est terrible de voir ça. Et bien, qu'est-ce qui se passe après? Que se passe-t-il après? Ben ça, on sait moins bien ce qui se passe après, parce que bien sûr, on préfère toujours l'événement à ce qui suit. Ce qui suit est beaucoup plus lent et beaucoup plus confus et pourtant beaucoup plus passionnant. Parce que ces jours derniers, là, on a parlé avec les amis du monde diplomatique, de Wikileaks, d'aller chercher les secrets, les grands dévoilements. On essaye de réfléchir, d'avoir recours à nos grands intellectuels, aux grandes lumières, aux grands concepts, pour comprendre un peu ce qui se passe et les raisons de la domination, de l'oppression, et puis faire tout ce que nous pouvons pour nous émanciper et s'émanciper tous ensemble. Alors qu'il y a des choses très très simples et qui ne demandent pas tous ces efforts-là, c'est simplement de marcher. Marcher avec ses pieds, un pied et puis un pied, et puis regarder autour de soi. Regarder autour de soi la ville, une ville. Hein ? Là, il y a les idées. Là, il y a la domination. Dans l'habitat, dans la disposition de la ville, des rues, des quartiers, du centre, de la périphérie, et des modifications. Avec le temps, on observe. Tous nous avons observé ces modifications. Voilà, il y a un jour où, étonnamment, ces tours s'effondrent, s'écroulent, explosent. Et que se passe-t-il ensuite? C'est ce qu'a fait Charlotte Perry. Elle est allée simplement avec ses pieds marcher dans des quartiers de la périphérie de Paris pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et ça s'appelle une curiosité urbanistique. Comment tout cela évolue, les idées qui sont derrière, les idéologies qui sont derrière, c'est-à-dire, en bref, la politique, le politique, la politique de la ville, a-t-on dit, qui est quelque chose de si important et qui, finalement, nous regarde assez peu et que nous regardons certainement insuffisamment. C'est ce que nous allons faire jusqu'à 16h, en tout cas, pour ce qui nous concerne. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Ilse du Calvados. Tant que des émissions comme celle-ci existeront, la démocratie n'aura pas totalement sombré. Hier, j'entendais un intervenant dire que le discours social de Marine Le Pen était nouveau. Mais le discours opportuniste des représentants du FN n'est pas l'essentiel. Journaliste, plongez au cœur du FN et vous verrez que le ventre est encore fécond d'où jaillit la bête immonde. Il faut toujours se méfier des nationalistes. À lire ou relire, Souvenir d'une ambassade à Berlin, d'André-François Poncet, livre qui retrace l'ascension du national-socialisme en Allemagne dans les années 30. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel. Ici Jean-Baptiste Botul. Et je sollicite un droit de réponse, un peu tardif certes, mais j'étais à Davos avec Johnny et Zapata. Je voulais dire que ce n'est pas Joséphine B. ni Simone B. qui m'ont poussé dans le lit de Jean-Paul, mais l'inverse. Alors, j'en profite pour remercier mes amis botuliens qui défendent ma pensée, mon œuvre, mes chats. Mais les botuliens, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Enfin, j'ai jamais dit que l'existence précédait l'essence de peu, mais de très près, ce qui change complètement tout. Donc le seul habilité à me citer est BHL, le bienheureux lénifiant. Merci de transmettre, à ciao plus et à bientôt.
Salut. À Perpignan, le prochain repère aura lieu au Lisboa, place Rigaud, jeudi 6 janvier à 18h30, comme tous les premiers jeudis du mois. Nous parlerons sûrement des autres repères du coin et de leurs liens entre eux. Nous continuerons sûrement la discussion du mois dernier sur le bilan du mouvement sur les retraites et ses perspectives. Reformatons-nous et convergeons avec ces personnes. Nous évoquerons aussi le forum social d'avril et, bien sûr, les thèmes habituels. Les banques, la démocratie, la conscience politique, l'organisation d'actions concrètes et autres exclamations telles que « il y en a marre d'être pris pour des cons » ou bien « ça suffit ».
Alors, dans l'énumération des tribus qui existent dans notre beau pays, il y avait les Lili, les libéraux libertaires, il y avait les Boubous, les bourgeois bohèmes. Alors, il y a une nouvelle variété qui vient de pousser à l'UMP, ça s'appelle les Dropos. C'est la droite populaire. Et bon, Daniel, lui, qu'est-ce qu'il serait? Moi, je dirais que c'est un gaucho, c'est-à-dire un gauchiste un peu cochon. Voilà. Quant à moi, ben, je suis une vieille conne, comme d'habitude.
Il y a cette réhabilitation qui est arrivée. Et en fin de compte, on s'aperçoit que l'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est une manne donnée aux promoteurs. Enfin, sur Garges, du moins, c'est une manne donnée aux promoteurs.
C'est pas des murs en béton qu'on a. Là, c'est du pack au plâtre. Mais ça, ces petits immeubles, c'est un puzzle. Hein. Ça, c'est comme un Lego. Hein. Ouais, vous prenez des Legos, vous mettez un sur l'autre, et puis ça y est, la maison elle est construite. Hein. Eh oui, c'est ça. Hein.
C'est comme ça que c'est sorti aussi vite de terre, alors.
Ça.
C'est vrai qu'on a reconfiguré architecturalement la ville, mais malheureusement, les problèmes sociaux et les problèmes économiques demeurent sur la ville, et c'est ça le drame. Quoi. L'Enroux n'a pas réglé ça.
Vous dites que les gens sont relogés beaucoup plus loin, mais
ils sont pas relogés, ils sont expulsés. Les gens qui habitent dans ces quartiers-là, quand il y a une rénovation, on leur dit pas « vous voulez un logement ici, ou vous voulez ceci ?» C'est « tu prends ou tu vires ». Et de toute façon, rester ici, ils n'auront pas les moyens de payer les loyers.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, les petits séparés et les grands ensemble.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, là on est samedi matin, il est pas loin de 10h30. Et on se trouve à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise, juste à côté de Sarcelles et de Villiers-le-Bel. On y arrive par la ligne D du RER. Et alors là, on a quitté l'axe principal de Garges, l'avenue du Général de Gaulle, pour prendre une petite route sur la gauche, en direction de la Muette. Alors la Muette, c'est un des quartiers sensibles de Garges. C'est un quartier qui a été construit dans les années 70, qui était fait de bars et de tours, principalement du logement social. Et c'est un quartier qui a été entièrement rénové grâce au plan de rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo, initié en 2003. Alors en fait, la ville de Garges a très tôt obtenu les subventions de l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, qui est chargée de piloter en fait les projets de rénovation urbaine et d'attribuer les subventions. Et du coup, le quartier de la Muette a aujourd'hui pratiquement achevé sa transformation. Pendant 5 ans, les grues se sont activées, les bars et les tours sont tombés, et elles ont laissé place à de jolis petits immeubles de 3-4 étages. Là, justement, on commence à s'approcher du quartier. Alors, c'est assez étonnant de voir ce paysage assez plat, avec des petits immeubles qui s'étalent à perte de vue. Ce sont des petits immeubles en forme de cube, on dirait un petit peu des boîtes qu'on a posées là, un peu partout. Ils ont des petits volets peints. C'est très mignon, très coquet. Et d'ailleurs, de la vie générale, eh ben, le quartier de la Muette, c'est un des plus bels exemples de réussite de l'ANRU, de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Ce qui fait que bah, les hommes politiques aiment bien venir ici pour parler de rénovation urbaine. La semaine dernière, c'était François Fillon qui est venu. Avant lui, il y avait Fadela Amara, Xavier Bertrand, etc. Enfin, la Muette, c'est un peu devenu la vitrine de l'ANRU. Et nous, eh ben, on est venu ici ce matin, parce que ce matin, il y a l'inauguration du centre social du quartier, le centre d'Ulcy September. Alors on s'est dit que bah, c'était une bonne occasion pour rencontrer les élus, mais aussi et surtout les habitants, et savoir ce que eux pensaient un peu de la transformation de leur quartier.
Voilà, vous avez compris où nous sommes, dans la banlieue parisienne, dans la région parisienne, à la Muette, à Garches-lès-Gonesse, dans le 9-5. Et là, eh bien, c'est une des vitrines de l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Vous vous souvenez, vous n'avez pas manqué ça. Fin 2003, début 2004, c'était la grande révolution. L'ANRU avait un programme formidable, des objectifs absolument formidables. Écoutez plutôt, réinsérer les quartiers dans la ville. Alors voilà, ça on est entièrement d'accord, il faut remélanger, éviter la purification sociale. Alors très bien, réinsérer les quartiers dans la ville, créer la mixité sociale dans l'habitat. Indispensable de créer de la mixité sociale. Eh bien oui, il faut mettre des riches avec des pauvres avec des riches, et puis des gens de cultures différentes. Très belle idée, formidable. Troisième objectif, introduire de la mixité par la diversification des fonctions. Eh bien oui, vous mettez des commerces, vous mettez des activités économiques diverses, culturelles, de loisirs, etc., de l'administration. Et ça fait du mouvement, ça fait de l'activité, ça fait du brassage, ça fait de la diversité. Et oui, on dit, mais c'est bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Et alors on dit, mais dites donc, sans vouloir être trop gênant, vous avez des sous. Ah oui. Alors ça, c'est pas un problème. On a plein de sous. C'est financé à parité par l'État et par les partenaires sociaux. Les moyens d'intervention de l'ANRU ont été porté de 11 à 12 milliards, je ne sais plus quand. Enfin, il y a beaucoup de sous, il n'y a absolument aucune espèce de problème. Ça roule, ça y est, on a trouvé la solution. Oui, alors, la solution, sauf que là, je regarde dans le quotidien Le Monde du 16 octobre 2010, un rapport de deux députés, l'un PS et l'autre UMP, qui dénoncent l'absence de suivi politique cohérent. La politique de la ville, disent-ils, est impuissante à résoudre les difficultés des quartiers. Et ils parlent de ghettos inavoués. Voilà. Et pourtant, il souligne, comme je viens de le faire, que des moyens importants ont été engagés et en hausse, presque 4 milliards d'euros en 2009, et ce qui n'est pas mal du tout. En tout cas, c'est un sujet quand même assez important, puisque 4,5 millions de nos compatriotes vivent dans les ZUS, les US, les zones urbaines sensibles. C'est quand même pas négligeable. Le taux de chômage y est de 17%, il était de 17% en 2009, contre 7,5% dans le reste de la France. Il s'agit évidemment des chiffres officiels qui sont évidemment contestés. Et dans ces zones urbaines sensibles, le seuil de pauvreté, pour 33% des habitants qui vivent dans ces zones, eh bien, c'est le dessous du seuil de pauvreté, qui est de 12% dans l'ensemble du territoire français et qui l'a atteint presque 45% chez les moins de 18 ans, c'est-à-dire chez les jeunes. C'est quelques indications, c'est dire si ce problème, ce domaine est préoccupant. Ghettos inavoués, ça c'est selon cette commission d'enquête. Donc on se demande si si la politique de l'ANRU, si cette ANRU ne serait pas une fois de plus comme Desbrouf, qui par la suite s'oublie très facilement, étant donné le fonctionnement mille fois dénoncé des médias qui adorent les coups d'Esbrouf, justement, mais qui ne sont pas là ensuite pour nous dire un peu ce qui se passe. Mais nous, on y est avec Charlotte Perry. Je soupçonne Charlotte d'être là uniquement pour pouvoir grimper dans le petit train de la rénovation urbaine. Les petits séparés et les grands ensembles, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression, stoppe et naît la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas les cas d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Pardonne plus, oh. Nous n'avons rien à placer, nous n'avons jamais eu. Ouh, à votre place, je ne dormirai pas tranquille. La bourgeoisie peut trembler, les guerres sont dans la vie. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons à l'Élysée brûler les vieux et les vieilles. Faut bien qu'un jour il paye. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Sont nos repères, sont nos modèles de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai pensé.
Il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines. Alors arrêtons-nous, plutôt que cela traîne ou ne traîne. Même encore plus de haine, une étion ne pourra incinérer ce système.
Mais
ça va commencer l'inauguration. On va se rapprocher. Monsieur le maire va couper le ruban.
Et on va demander au directeur de bien vouloir nous faire visiter son établissement.
Eh bien, allons-y. On va commencer par l'étage.
Alors, avant, ici, c'était quoi?
C'était des bars et des tours.
Vous êtes
Gérard Bonhomé, je suis l'adjoint du maire chargé de l'urbanisme et de l'habitat. Toutes les belles constructions que l'on voit, donc c'est une réalisation qu'on a commencée dès l'incinérateur de l'ANRU en février 2005. Toutes les grandes barres et les grandes tours ont été donc détruites et remplacées par des petits îlots de 30 ou 40 logements sur 3 étages, 4 étages grand maximum. Voilà. Et en faisant de la résidentialisation.
C'est quoi ?
La résidentialisation, ça veut dire que tous les accès sont complètement sécurisés, il y a des grilles autour avec des petits jardins et tout autour. Ce qui fait que les gens sont complètement chez eux, comme s'ils étaient dans une résidence et non pas dans un HLM. Et on a fait de la mixité sociale sur l'ensemble du quartier.
Mixité sociale, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont venus habiter aussi
au quartier. Il y a d'autres gens qui sont venus habiter. Il y a des gens qui étaient dans les HLM qui ont préféré acheter. Quand on parle de mixité, c'est aussi bien dans le parc social que le parc privé. 35% des gens quand même de Garges ont acheté ici. Et puis d'autres viennent un petit peu de tous les coins. Il y en a même qui viennent du nord de la France et qui sont venus pour acheter.
Et est-ce que ça a amélioré la sécurité, tout ça?
Alors c'est une évidence. C'est une évidence parce que là où les gens ne voulaient pas aller, maintenant on s'y promène mais comme on veut, sans aucun problème. Et les gens sont beaucoup plus respectueux. Alors certains de nos adversaires me disaient « Vous voulez embourgeoiser la ville ?» Non, vous n'avez rien compris. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient beaucoup plus heureux qu'avant. Avant, ils vivaient dans des taudis, enfin dans les taudis, dans des trucs insalubres, dans des qui n'allaient pas du tout. Et on n'a plus ce problème d'insécurité qu'il y avait avant. On a diminué énormément d'insécurité.
C'était une ville un peu dangereuse, Garges, avant?
C'était une ville de banlieue. Hein. Mais maintenant, ben, effectivement, c'est toujours une ville de banlieue, mais avec les nouvelles technologies, et les gens demandent à venir.
D'ailleurs, il y a un petit train qui fait alors, le tour.
Oui, aujourd'hui, ben, c'est la fête. Hein. C'est la fête à la Muette, c'est la fête aux Doucettes. Et ce petit train, c'est pour montrer aux enfants, aux parents, tous ces changements. Bon, ben, les gens sont contents.
Et les gens sont contents. Et puis le monsieur, là, monsieur Bonhomme, il est content. Et voilà, il suffisait, vous avez compris, c'était tout bête. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? On fait sauter toutes ces barres, qui sont, toutes ces tours pleines de délinquance et d'insécurité. Et puis on construit des petits immeubles comme ça, qu'on étale dans le paysage. Et puis les gens sont contents. Les gens viennent de partout et ils achètent. Et c'est la sécurité, voilà, et ça marche très bien. Et c'est, tout ça, c'est grâce... à l'ANRU, oui. Alors, les chiffres un petit peu plus précisément, à la Muette, là, dans ce quartier de Garches-lès-Gonesse où nous sommes, dans le 9-5, dans la banlieue parisienne, 539 logements sociaux ont été démolis sur les 1143 logements sociaux du quartier, 604 logements sociaux seront réhabilités, 340 le sont déjà, 260 logements sociaux ont été reconstruits et 103 logements sociaux n'ont pas encore été livrés. À l'heure actuelle, il y a donc un bilan négatif de 269 logements sociaux et à terme, il y aura une perte de 166 logements sociaux sur le quartier. Voilà, ça c'est pas de la mauvaise foi, c'est des chiffres qui sont avancés par le programme. Donc on se dit, ben, est-ce que ce ne serait pas effectivement une sorte d'embourgeoisement ou de gentrification de ce quartier? Alors si c'est le cas, si c'est le cas, alors où vont les pauvres, les gens qui ne peuvent pas, qui ont des tout petits revenus? Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vous dis, je pense que Charlotte veut absolument monter dans le petit train de la rénovation urbaine à Garges.
Vous vous appelez comment ?
Frédéric Ménard. Donc je suis directeur du développement, je suis en charge de la rénovation urbaine sur les trois quartiers de Garges.
D'accord.
Parce qu'on a signé avec l'Agence nationale de rénovation urbaine en 2005 pour ce quartier-là et 2006 pour les Doucettes et Dame Blanche Ouest. On a eu la chance d'avoir trois dossiers de rénovation urbaine sur la ville. Quoi.
Ah
ce
oui.
qui est une chance énorme parce que voilà, c'est une totalité de travaux de 400 millions d'euros. Donc c'est énorme pour une ville de 40 000 habitants. Quoi. Ça permet de transformer à peu près un tiers de la ville, en fait. D'intervenir sur un tiers de la commune, grâce au financement de l'Agence nationale de rénovation urbaine.
Ah oui, c'est assez exceptionnel de réussir.
C'est totalement exceptionnel. Ouais,
c'est grâce à la Muette.
D'avoir cette chance-là, ouais, d'être financé.
Le 5 représente grâce à la Muette.
Allez, on fait un tour, alors on va faire un tour.
On monte dans le petit train de la rénovation, là.
C'est bon, vous pouvez monter.
D'accord, je monte.
On y va.
Vous habitez à la Muette ? Vous habitez dans les nouvelles constructions, là ?
On habite dans les anciens.
Dans les nouveaux et dans les anciens ?
Bienvenue à tous.
C'est comment les nouvelles constructions, ça vous plaît ?
Ça sont les extraterrestres.
Donc là, on arrive sur la place Mandelac.
Tout le monde, les gens commencent à monter sur les toits.
Si on vous faites trop les ânes, on arrête.
On ne peut pas monter sur les toits, restez assis, sinon on arrête tout.
Allez, tu t'assois tranquille. Écoute-moi, tu t'assois tranquille.
Voilà, ça y est. 95 Garches à la Muette. Wow, on pèse tout.
On pèse la police.
On pèse la boîte.
Bon, ils sont comment ces nouveaux quartiers? Ils sont bien ou ils sont pas bien?
Plus sa mère. Il y a plus de fumeurs de shit à l'intérieur. Il y en a plein qui sniffent encore.
C'est à la Muette là.
Bien, donc je parlais de la place Mandela qui est en face de vous. Vous voyez aussi le centre social qui a été inauguré aujourd'hui avec les couleurs rouges. Mais ça fait une fois que je te préviens, au bout de la troisième fois, on arrête le train. Écoute bien ce que je te dis. Vous voyez au fond des petits pavillons, des petites maisons en bois qui a été construit cet été.
Vas-y,
Nique ta mère.
Arrête,
tu vas tomber.
Instant.
T'as les gamins qui vandalisent le bus, qui cassent tout, qui montent dessus.
Descends.
arrêtez vos conneries là-haut.
Bon, bah après cet épisode assez tumultueux, j'ai perdu le petit train de la rénovation qui est parti en avançant très très vite.
Hey, le reporter, dégage d'ici. Ah, t'es venu à la muette là.
Pardon?
On va tout niquer ici là.
Pourquoi?
Arrêtez de venir.
Pourquoi? Viens voir les nouveaux bâtiments.
On s'en bat les couilles, c'est pas la fête.
Vas-y, avance.
Vas-y, barre-toi. Le prochain journaliste, il vient ici, on va le traîner sa mère.
Bon, ouais, bah, quand on fait la fête, il y a des troubles fêtes, quoi, voilà. Et c'est quand même un peu bizarre, hein, parce que tout se passait bien, nouveau quartier, on apporte le bonheur, on sort du ghetto. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ça? Autre explication par des jeunes filles du quartier.
Vous étiez dans le petit train?
Ah ouais,
on était juste devant.
Mais oui, en plus, ils ont secoué, ça a secoué. Après, derrière, les vitres, elles étaient toutes cassées, c'était horrible. Il y a même une dame, elle a appelé la police, et maintenant la police, elle rôde, en fait.
Ah bon?
Mais maintenant, ils les cherchent. En fait, ils ont déposé là-bas, en fait. Après, ils ont accéléré parce que les jeunes, ils commencent à courir. Et en fait, on a même pas pu avoir les dernières explications sur les bâtiments parce que comme les jeunes étaient là, ils ont accéléré.
Mais c'est dommage. Moi, je savais qu'au début, ça va aller foutre la merde, les jeunes.
Juste, on a vu les jeunes commencer à rentrer. On s'est dit, ça va pas tourner mal puisqu'on est habitué. Parce que, des fois, il y a des jeunes, ils sont gentils. Ils respectent les trucs de la ville. Mais là, je sais que à Garges, ils respectent pas beaucoup. Hein. Ah non, non, c'est... Mais l'année dernière, il y a eu la place Nelson Mandela en juin. Mais en fait, la place Nelson Mandela, elle va pas tenir longtemps. Parce que même ma classe de CM2B, on avait fait un totem. Nous, on avait bien fait. On avait écrit fraternité, la liberté. C'était un petit peu sur Nelson Mandela, un petit peu sur l'Afrique du Sud. Mais après, ils allaient pour le mettre, ils ont cassé. Ça n'a même pas tenu un jour parce que dès qu'ils ont voulu le poser, ça a cassé. Quand moi, je suis rentrée en septembre, j'ai vu la place à Nelson Mandela, j'ai été voir les toboggans, c'était déjà brûlé. Oui. Ah oui, c'est brûlé en fait. Il y a un côté que c'est brûlé.
Et là-bas, le petit stade là, il est tout cassé. La porte, elle se ferme même plus.
Ouais.
Ils ont tout piqué. Ils ont même brûlé. Ils ont tout cassé.
Ça, c'est les jeunes, ça encore.
À peine ils auront fini, tout sera cassé.
Mais pourquoi ils font ça, vous savez, vous?
Non, c'est parce qu'ils croient les rois du monde, je crois, je sais même pas en fait.
Allô?
Ouais, Chief. Ouais.
Ouais, t'es où là?
Ouais, là je suis à Gare du Nord, je suis chez toi dans 30 minutes là, ok?
Ouais,
tu m'attends?
Pas de problème. Ouais, je t'attends ici, ok?
Tout.
On se voit tout à l'heure.
Comment on chie?
Ça va, daddy.
Tranquille.
À part ça, qu'est-ce qu'on dit?
Ici, les soucis se mêlent aux mélodies de la vie.
Mais de quelle vie tu parles?
De celle du béton.
Celle qui s'étouffe dans des taudis.
Ou sexe, drogue, cam, on finit par pourrir Paris. Les jeunes font du sport pour rester dans le coup. Ouais. Les parents trempés, couverts de dettes jusqu'au cou. T'as beau prier Bouddha, jouer l'industrie à 4 sous.
L'état resserre les crouches chaque
mais ton
jour.
Esprit sans dessus dessous.
Meilleur sans but lucratif, le jeune n'a pas de lendemain.
Vendre de la taupe.
Rapport du fric, mais n'aboutit à rien. Certains font le tapin.
D'autres optent pour le sac à main.
J'ai choisi le mic et ce biz me va bien.
Je représente,
nous représentons
dans tout ce béton
l'espoir,
l'escadron,
le dernier recours à la raison. Attention la zonzon,
n'est pas loin de ta maison ce dont nous parlons.
Si tu n'as rien rempli ton pantalon,
les bruits anodins, les ronds de police sans cesse. De bon matin au déjeuner se mêlent au cornflex.
Ce qui te vexe me vexe.
J'encaisse sans qu'ils exercent les méthodes utilisées pour l'animal qu'on dresse.
Mes yeux se posent à terre autour de moi, le vacarme.
Ouais.
Je vois une flaque d'eau polluée par des sachets de cam. Je relève la tête et regarde autour de moi. Le monde de la nuit,
c'est vautour
et ses proies.
Là d'où l'on vient,
Dieu n'a pas mis les pieds.
Laissé à la dérive sans rien.
La rue m'a baptisé, là d'où l'on vient.
Dieu n'a pas mis les pieds.
Laissé à la dérive sans rien. La rue m'a baptisé.
C'est... Aïe, aïe. Hermano.
Bon, Jean-Pierre Gardier, sociologue urbain, j'ai longtemps travaillé au CNRS dans différents départements, aussi bien géographie, sociologie que même de philosophie. Voilà, en gros, et j'ai toujours travaillé sur, la dimension urbaine de la domination capitaliste.
la dimension urbaine de la domination capitaliste. Voilà la préoccupation du sociologue Jean-Pierre Garnier. Comment expliquer que cette violence se poursuit alors qu'on fait tant de choses, alors qu'on se décarcasse, même si, on le disait, le bilan n'est pas au rendez-vous, le bilan de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui était si ambitieux et si volontariste, ce que les opposants à ce plan ou à ceux qui ont animé cette politique sont pas aussi critiques que ça. C'est pas tellement l'ANRU même qui est mis en question, c'est les moyens de l'application, et puis c'est le fait que malgré tout l'urbanisme n'est que l'urbanisme, le logement n'est que le logement, c'est extrêmement important, mais pour casser les ghettos qui était le but de cette politique, il y a d'autres problèmes qui sont là, dont cet éléphant au milieu du salon, qui s'appelle l'emploi. Et c'est très difficile d'imaginer ou de se battre pour une politique du logement ou politique de la ville si les autres problèmes, à commencer par celui-là, celui de l'emploi, n'est pas regardé en face et ne cesse pas d'être, on pourrait dire, comme une volonté, le moyen d'appliquer et de mettre, de continuer, de poursuivre cette domination. Le point de vue de Jean-Pierre Garnier, sociologue.
Bon, je vais commencer par l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est occupé de ce qu'on appelle les banlieues, c'est-à-dire des banlieues qui posent des problèmes aux gouvernants, lorsque leur progéniture, par exemple, devient turbulente et cause des problèmes de maintien de l'ordre. Tout cela a commencé au milieu des années 70, au moment de ce qu'on appelle la crise, c'est-à-dire la restructuration du système productif à l'échelle nationale et planétaire, avec un phénomène connu sous le nom de désindustrialisation, où une grande partie de la population ouvrière s'est retrouvée au chômage, avec, pour ce qui est des nouvelles générations, un avenir de plus en plus sombre. Et cela engendrait toute une série de révoltes et de rébellions qui ont pris une forme délinquante dans les cités, donc, c'est-à-dire les zones de relégation étaient parquées le prolétariat ouvrier, principalement d'origine immigrée. Et la question s'est peu à peu posée de savoir qu'est-ce qu'on allait faire des enfants de ces familles ouvrières. Et on a mis immédiatement en place une politique qui avait deux volets, et qui a toujours deux volets d'ailleurs. C'est un volet soi-disant préventif et un volet répressif. C'est sous Giscard d'Estaing, donc, qu'a commencé tout cela. Il y avait un ministre, garde des Sceaux, connu sous le nom de... C'était son nom, d'ailleurs, Alain Perfit, et qui a lancé, en coordination avec des technocrates de l'aménagement, une politique appelée « Habitat et vie sociale ». L'idée, le diagnostic était le suivant. Si la situation se dégrade dans les cités, c'est parce que l'habitat se dégrade. L'habitat, au sens physique, architectural du terme, se dégrade. Donc, si on améliore l'habitat, on va améliorer la situation dans les cités. Ça, c'est le volet préventif. L'autre volet était un volet répressif, déjà. C'était très célèbre, la loi sécurité et liberté. Bien. La gauche arrive au pouvoir, et le premier été de l'arrivée de la gauche au pouvoir s'intensifie un certain nombre de phénomènes, de troubles. Donc, c'était ce qu'on appelait les étés chauds. Et immédiatement, le gouvernement de gauche, enfin, la gauche officielle a mis en place une politique beaucoup plus affirmée de prévention, une politique de l'emploi des jeunes par des biais divers, d'action sociale, d'aide aux devoirs. Le problème, c'est que cette politique n'a pas donné beaucoup de résultats en ce qui concerne le maintien de l'ordre. C'était déjà plus dur que durant les années 70, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'entre-temps, et la gauche, après un an et demi d'essai de politique un peu keynésienne d'État social, a abandonné cette orientation pour une autre. Alors c'était la politique dite de rigueur. On disait postérité, ça avait été utilisé par Raymond Barre, qui était un ministre de droite. On fait la même chose, on intensifie en fait l'austérité, mais on l'appelle rigueur. Le résultat, c'est que la situation économique dans les cités se dégrade, et bien entendu, l'avenir des jeunes générations apparaît de plus en plus sombre. D'où intensification des phénomènes de violence urbaine, comme on dira. Et naturellement, aussi bien les solutions répressives que les solutions dites préventives n'ont pas donné les résultats escomptés. La situation continue à se dégrader du fait de ces déterminants socio-économiques qui n'ont pas changé. Et évidemment, le résultat, c'est qu'il y a de plus en plus d'agressions contre les personnes. Puisque les voitures sont de mieux en mieux gardées, les appartements aussi, les immeubles aussi, donc on s'attaque aux gens, c'est plus facile. Et puis il y a la violence contre les personnes, purement, j'allais dire, dictée par une espèce de haine réactive, un désir de revanche sociale, un sentiment d'impuissance et en même temps d'agressivité de la part de jeunes qui finalement, n'ayant plus d'objectifs, n'ayant plus de but, de raison explicite d'agir, mais néanmoins ayant envie de refuser une société qui les refuse, s'en prennent de manière gratuite, comme disent les journalistes. Violence gratuite, la violence insensée, sans objectif, mais non sans objet. Et on appelle ça la violence d'expression parmi les sociologues. C'est-à-dire on exprime un sentiment, de malaise et de haine.
Qui ne frémit pas parfois d'indignation en découvrant au hasard d'une route un immeuble, une villa monstrueusement érigée dans un décor agréable.
FR3.
Ce n'est pas certes la seule faute des architectes, mais ils y sont pour beaucoup.
14 octobre 1976.
Aujourd'hui, la qualité de l'architecture est contestée. C'est pourquoi un projet de loi sur l'architecture est né, soulignant l'intérêt collectif d'une architecture de qualité et le respect de l'environnement, deux notions inséparables. L'esprit de la réforme est de donner à chacun la capacité de participer aux responsabilités de l'aménagement. La gestion de ce conseil d'architecture sera confiée à une association faisant une large passe aux élus locaux. Les représentants de la population seront ainsi, et c'est important, associés au choix des actions à mener compte tenu des circonstances et des particularismes locaux. Ainsi, on peut espérer qu'un droit de regard sur des projets intéressant la vie de chacun permettra d'éviter des erreurs parfois monumentales.
François Pupponi, député maire de Sarcelles. En 30 ans, la situation sociale de ces quartiers ne s'est pas améliorée, voire elle s'est dégradée.
Voilà, 1976, ce document qui dit ce qu'est le cadre de vie, qui dit simplement que le cadre de vie, c'est beaucoup, ça compte beaucoup le cadre, mais enfin c'est pas le tableau. Le cadre de vie, c'est pas toute la vie. Et là, c'est François Pupponi, j'évoquais tout à l'heure ces deux députés qui ont rendu ce rapport sur les ghettos inavoués. Il y a François Goulard de l'UMP et François Pupponi, député PS du Val-d'Oise.
Quand on regarde tous les critères, niveau de chômage, réussite scolaire, niveau social des populations, en 30 ans, les choses ne se sont pas améliorées, au contraire, elles se sont dégradées. Donc c'est le dur constat que nous faisons. Nous n'avons pas été capables, collectivement, de sortir ces quartiers et ces populations de l'état de relégation dans lequel ils étaient. L'ANRU, ça marche ? Si on ne prend que l'ANRU, c'est-à-dire le renouvellement urbain, ça fonctionne. L'ANRU a pu, grâce aux 40 milliards d'euros investis, changer d'une manière efficace, évidente, la physionomie des quartiers. Il suffit de se promener dans un quartier ANRU pour voir que c'est efficace, que les grues sont là, que les immeubles se rénovent, que des constructions nouvelles interviennent. Mais une politique de renouvellement urbain n'est pas suffisante. Car si dans ces quartiers-là, il continue à y avoir 2, 3, 4 fois plus de chômeurs qu'ailleurs, un quartier neuf avec des chômeurs est toujours un quartier où il y a des chômeurs. Et donc le grand handicap de la politique de 2003, c'est qu'elle a mis en œuvre une politique de renouvellement urbain efficace, mais qu'à côté de cette politique de renouvellement urbain, on n'a pas été capable de mettre en œuvre une politique de création d'emplois, une politique de développement économique, une politique sociale efficace. Et donc c'est le drame de ce pays. On n'est pas capable de mettre ensemble, d'une manière coordonnée et cohérente, toutes les politiques indispensables. Alors l'ANRU, c'est très bien, mais si il y a autant de gens en difficulté dans les quartiers, les problèmes sociaux resteront. Et si on ne donne pas aux communes qui gèrent les quartiers ANRU la possibilité d'avoir les moyens d'entretenir ce qui a été fait par l'ANRU, dans 3, 4, 5, 10, 15 ans, ce qui a été fait par l'ANRU sera dégradé et n'aura servi à rien. Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, Clichy, Montfermeil sont les villes les plus pauvres de France. Et donc si nous n'avons pas demain des moyens supplémentaires, nous ne pourrons pas entretenir ce qu'a fait l'ANRU. Donc c'est absurdité. Donc nous avons plus de problèmes que les autres, plus de problèmes sociaux, parce qu'on nous a envoyé toutes les populations en grande difficulté et nous n'avons pas les moyens de faire face aux problèmes de nos populations. C'est l'absurdité de la situation française dans le domaine des collectivités locales. Tout le monde sait qu'il y a des inégalités criantes, mais insupportables, et on n'est pas capable encore de donner à ces communes au moins le même niveau moyen que toutes les autres communes de France. Et donc, devant ce constat général, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, la France n'a pas été capable de s'occuper efficacement de ces ghettos depuis 30 ans.
Il faut bien se dire que, à l'origine de nombreux désordres sociaux,
10 août 1983,
se trouvent ces fâcheuses, ces déplorables conditions de vie.
François Mitterrand.
Et moi, je veux lutter contre ces désordres. Et pour cela, il faut que je m'attaque avec le gouvernement et ceux qui ont la charge auprès de moi. Je veux absolument m'attaquer aux sources d'un malaise et d'un déséquilibre social qui sont d'une immense ampleur. Raison de plus pour commencer par un bout, avec énergie et continuité.
Alors, vous avez reconnu bien sûr la voix de François Mitterrand qui a voulu commencer par un bout. À l'autre bout aujourd'hui, eh bien voici Pierre Salnave, qui est directeur général de l'ANRU et qui est assez content de son bilan.
C'est une agence qui a été créée il y a maintenant 6 ans pour mettre en œuvre un grand projet, un grand programme national visant à remettre en route des quartiers en grande difficulté, à leur redonner des conditions de vie beaucoup plus acceptables pour les habitants, refaire de ces quartiers des endroits où on ait envie d'aller vivre et où les gens qui sont installés là n'aient pas honte d'habiter, au contraire, aient toutes leurs chances de bien s'épanouir dans la ville. On a mis au point, sur environ 500 quartiers, des programmes d'intervention. Et ces programmes, eh bien, si on les additionne tous, ils conduisent à environ 130 000 démolitions, le même nombre de reconstructions et à peu près 300 000 réhabilitations de logements. Si je prends globalement sur la région parisienne, par exemple, pour 100 logements démolis, on en reconstruit 104 ou 105. Donc globalement, on reconstruit plus et on reconstruit évidemment là où les besoins sont les plus importants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le coût de relogement. Ça, c'est pour nous un point absolument essentiel. Et notre règle du jeu est très claire. Les habitants que nous relogeons doivent être relogés au même reste à charge. Le reste à charge pour les habitants n'augmente pas si on veut respecter les règles de l'ANRU. Puis d'ailleurs, je vais vous dire, moi, j'écoute d'abord l'avis des habitants. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont contents.
Alors voyons s'ils sont contents. Les habitants, Monsieur Salnave parle d'un bien beau projet, un bien beau programme, une bien belle réussite. Mais voyons si les habitants sont contents. Rencontre avec Cyrilienne, qui habite dans les nouvelles constructions près du centre d'Ulcy September à la Muette.
Je regrette.
C'est vrai?
Oui. Parce que les charges, ça, c'est cher, les charges. Au départ, on ne nous avait pas dit tout ça. On nous avait dit, pour les loyers, on nous avait dit que c'est la même chose, on payera la même chose. Mais on ne nous avait pas dit que c'était à part tout ça. J'ai 470 euros de loyer, mais il y a l'eau. Et quand on pense à payer tous les mois 30, 35 euros d'eau, 40 euros de l'EDF, 51 gaz, tous les mois, et vous voyez la fin d'année, comment ça fait.
Parce qu'avant, dans les anciens immeubles, c'était collectif, c'est ça les charges?
Voilà, oui. C'est collectif, l'eau aussi. Parfois, il y a des mois, des années, admettons, fin d'année, j'avais même pas de loyer à payer, parce que j'avais payé trop de charges, en surplus. Ah. Maintenant, je rajoute tout le temps. Ça revient cher pour moi, toute chose. Ça revient cher. Moi, je travaille à l'hôpital. D'accord. La gérontologie, les personnes âgées. Dans la chambre. La chambre de mon fils, on est obligé de la tasser un petit peu.
Ah oui, tout est entassé.
On est obligé. Il n'y a pas de place. Là, c'est ma chambre. Je sais que j'ai jeté plein de meubles quand je suis rentrée. Oui, parce que je ne pouvais pas rentrer. Voilà, c'est ça. Même là, vous voyez, même une séparation. Une séparation. On a un jeune là, moi je suis là. C'est du placo. Ouais, si je suis dans la chambre, je tousse, mon fils m'entend. Ah ouais, c'est pas isolé du tout. Bon, mais dehors, on entend. Hein. Des gens qui parlent, même dehors, on entend. Ah ouais.
Mais du coup, vous auriez préféré rester dans votre ancien appartement réhabilité plutôt que ici?
Ah oui. Ah oui, moi je voulais. Ah oui, je préférais. C'est dommage.
Bonsoir, monsieur. Vous avez emménagé quand, ici?
Ça fait un moment, ça fait, je sais pas, 3 ans.
Et vous êtes content d'avoir déménagé?
Bon, par rapport à avant, quoi, voilà, c'est mieux, c'est plus confortable et tout, mais voilà, mais sinon, après, bon, il y a beaucoup plus des factures, on paye beaucoup plus cher qu'avant, auparavant, c'est vachement, ça n'a rien à voir. Hein. Tout ce qui est facture, en fait, gaz, électricité, et l'eau, et les charges, c'est vachement, ça n'a rien à voir. Et taxe d'habitation, c'est rien à voir, c'est vraiment rien à voir, on s'en sort pas. Chaque mois, on dit, on va s'en sortir, mais c'est toujours pareil. Depuis 3 ans, franchement, là, c'est la ruine, je peux dire le mot ruine, franchement. Même le forward, hein, même le forward, c'est Veolia. Veolia sont en train de violer les gens, c'est pas... Ouais, sincèrement. Mais c'est rien à voir, je comprends pas pourquoi.
De 700 euros, par exemple.
700 euros d'eau ?
700 euros d'eau.
Ils sont en train de carotter les gens, c'est tout, madame. C'est pas l'eau chaude, quand même, c'est le forward. Parce que nous, on va la chauffer, après, on va payer la facture de l'eau chaude. Après, on va payer ça, le gaz, ça veut dire c'est non. Et taxes d'habitation, c'est la ruine. C'est 1000 euros. C'est 1000 euros. Avant, c'était quoi ? C'était... Même 500 euros, mais là ça a doublé. Hein. Ça a doublé tout ça sur les frais des voiries, comme quoi qu'ils ont fait les voiries. Nous on n'a rien demandé. Hein. On n'a pas dit faites les voiries. Hein. Franchement, c'est... la commune ils ont profité. Tout le monde ils ont profité de la situation. Quoi.
C'est pas tout à voir non plus. C'est
ouais, mais pareil. Rien à voir, mais c'est pas, on n'est pas des propriétaires, hein, n'oubliez pas. On n'est pas des propriétaires. Moi je vais bien être un propriétaire. Hein. Pour taxe d'habitation 1000 euros, pour garge la meilleure, c'est des gens, c'est pas que des gens, il n'y a pas des cadres ici. Hein. Ils ne touchent pas 4000 euros les gens. Hein. Ici les gens. 1500 euros, 1200 euros, c'est leur paye maximum. Hein. C'est maximum, je vous dis. Et encore, c'est travail. Hein.
C'est-à-dire qu'on ne profite même pas. On paye les factures, on... puis voilà, on ne fait rien de plus que payer les factures et manger, et c'est tout. On ne peut pas ni partir en vacances, ni...
Vous touchez combien ?
1200 euros.
Moi, je travaille dans le bâtiment.
Dans le bâtiment.
Dans le bâtiment, hein. Et c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde, il n'y a pas que nous. Quoi. Depuis qu'on a habité, franchement, on ne s'en sort pas. En plus que ça, c'est des logements sociaux.
Ouais,
c'est des logements sociaux, à prix modéré.
C'est pas privé, hein.
500 euros de loyer, avec ça, ça, c'est presque facilement, il y a plus que 700 euros. Je suis en train de toujours gueuler, fermer ça, fermer ci, fermer ça, parce que j'en ai marre, maintenant travailler pour les factures, marre. Si c'est pour crever, non, pour des jardins comme ça,
propre,
d'accord, ça fait plus propre, mais pour payer à ces prix-là, si je savais, j'aurais même pas bougé, je suis parti dans les anciens, franchement. Il y a le chauffage normal, machin, au moins à la fin de mois, je fais pas de soucis, quoi, pour payer ça et ça, quoi. Et après, de toute façon, d'ici quelques années, si ça continue comme ça, ça va être en France, ça va être un État riche avec un peuple pauvre. C'est comme le tiers-monde. Ça va être pareil, madame.
Les riches et les pauvres qui, voilà, malheureusement, qui subiront les conséquences.
Depuis quelques années, ça commence à bien faire.
Rénovation égale relégation. Rénovation égale relégation. Pour beaucoup, on a parlé d'embourgeoisement et de rejet à la périphérie des plus modestes, des déshérités et leurs problèmes de population dangereuse et une façon de se débarrasser de la délinquance en la rejetant le plus loin possible à la périphérie. Le point de vue de Mohamed Raghoubi, qui est porte-parole de la coordination anti-démolition, il est contre les démolitions, lui et sa coordination, et il est le porte-parole du collectif des habitants de la Coudray à Poissy, dans les Yvelines, dans le 7-8.
Paradoxalement, les quartiers qui fonctionnent mal se trouvent tous en majorité en Île-de-France. Pourquoi ? Parce que vous savez que l'Île-de-France est convoitée, le mètre carré vaut très très cher, et puis depuis 2004, la loi de décentralisation, c'était des quartiers hors marché. On ne pouvait pas mettre de prix sur le mètre carré. Depuis la loi de décentralisation, c'est devenu des zones marché. Donc on peut mettre un prix sur le mètre carré. Donc ça attire toutes les convoitises. Sous prétexte de renouvellement urbain, on pratique parfois de l'épuration sociale. On se débarrasse d'une population pour amener une nouvelle classe moyenne dans ces quartiers. Donc il faut se débarrasser de cette population, on la relègue encore plus loin. Mais on ne leur dit pas ouvertement qu'est-ce qu'on fait. On construit des choses qui ne correspondent pas à leurs attentes. C'est vrai que la convention en rue, le loyer, il ne change pas. Mais on se rattrape sur les charges. Donc on fait quand même de l'épuration sociale. On se débarrasse d'une population. Soit vous acceptez, soit vous quittez le quartier. Il y a un malaise quelque part, il y a un vrai malaise quelque part. On ne peut pas, il y a 7 millions de personnes qui habitent dans les quartiers populaires en France. 7 millions de personnes. On ne peut pas dire aujourd'hui à ces millions de personnes, on va faire un projet de rénovation urbaine, mais il ne sera pas pour vous. On ne peut pas leur dire ça. Donc il faut respecter l'état d'esprit de la loi, qui est la rénovation urbaine doit en premier lieu profiter aux habitants de ces quartiers. eh ben il faut l'appliquer. Il faut pas le dire, il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, eh ben il faut leur donner les moyens. Il faut les aider, il faut les structurer. Il y a des associations aujourd'hui de locataires, il y a des entités constituées, des collectifs, et ces gens-là ne peuvent survivre que par leurs propres moyens. Et pour preuve, nous sommes le collectif des habitants de la Coudray. Et ce que nous faisons, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ben, je peux vous assurer que nous n'avons pas un euro d'aide. Donc nous sommes obligés de dépenser de notre poche, de passer chez les familles pour dire, voilà, on va engager une procédure, on va faire une maquette, donc aidez-nous. Et c'est toujours les habitants qui sont là pour donner. Mais les institutions, l'État, le bailleur, l'ANRU, la municipalité, personne un jour ne s'est dit, tiens, comment que ces gens-là fonctionnent ? Bien, on leur ramène juste au moins des ramettes de papier, au moins pour informer les habitants. Ben, ça n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, on veut voir ces gens-là comme un souci et non pas comme une richesse.
Comme un souci et pas comme une richesse. On continue demain sur ce sujet. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Badia Chouraki, François Pupponi, Jean-Pierre Garnier, l'auteur de Une violence éminemment contemporaine aux éditions Agone. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez faire des commentaires sur cette émission. On attend avec impatience ces commentaires. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Lidvine Caron, Koy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebotte et Marine Atouillez attend vos messages et vos témoignages sur ce sujet sur le répondeur de la base JC au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 réclame.
France Inter présente Somewhere, le nouveau film de Sofia Coppola, Lion d'or à Venise, avec Stephen Dorff, actuellement au cinéma. Johnny Marco, acteur à la réputation sulfureuse, vit à l'hôtel Château Marmont à Los Angeles. La visite inattendue de Cléo, sa fille de 11 ans, va pousser Johnny à décider du sens qu'il veut donner à sa vie. Retrouvez Stephen Dorff dans On aura tout vu, samedi 8 à 10h.
Les petits, c'est pareil, les grands ensemble, on les retrouve demain à 15h dans la basse, j'y suis, à demain donc. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Après Tim Burton l'an dernier, c'est encore un Américain qui présidera le prochain Festival de Cannes au mois de mai. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de Robert De Niro, entré dans l'histoire du Festival de Cannes avec Taxi Driver de Martin Scorsese, qui avait remporté la Palme d'Or en 1976. Robert De Niro s'est dit honoré et heureux d'accepter cette tâche. Les États-Unis vont déployer 1400 marines supplémentaires dans le sud de l'Afghanistan. Des renforts qui devraient arriver d'ici quelques semaines. Les forces américaines commenceront à quitter l'Afghanistan en juillet. Mais la rébellion islamiste est toujours aussi intense. Plus de 700 soldats étrangers sont morts dans le pays en 2010. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale, hausse le ton. Il accuse Laurent Gbagbo d'avoir du sang sur les mains. Selon lui, des mercenaires et des miliciens du président sortant ont perpétré des viols et des assassinats. Alassane Ouattara demande une action commando de l'Afrique de l'Ouest pour déloger Laurent Gbagbo du palais présidentiel. La tension reste forte dans le pays. L'ONU estime que les violences ont fait 210 morts depuis la mi-décembre. Et puis en Tunisie, la grève des avocats est très suivie dans tous les tribunaux pour dénoncer la répression d'une manifestation de solidarité avec les habitants de Sidi Bouzid. Cette ville au centre du pays est le principal foyer de protestation contre le chômage et la précarité en Tunisie. Les syndicats en France sont vent debout pour défendre les 35 heures. La relance du débat sur la durée légale du travail est une provocation inutile pour Force ouvrière. Supprimer les 35 heures, ce serait supprimer les majorations de salaire des heures supplémentaires et ainsi diminuer les salaires, explique le syndicat. De son côté, Solidaire dénonce une logique de régression sociale. Nicolas Sarkozy devrait s'exprimer à son tour sur ce sujet qui agite gauche et droite depuis plusieurs jours lors de ses vœux aux partenaires sociaux à 17h. L'Élysée, des vœux qui seront pour la première fois boycottés par la CGT. Claude Guéant contre Mediapart au tribunal, ce sera en octobre. Le secrétaire général de l'Élysée avait porté plainte en diffamation contre le site d'information en ligne. Dans un article daté du 3 novembre, le directeur de Mediapart, Edoui Plenel, avait accusé Claude Guéant d'avoir impulsé et coordonné l'espionnage de deux de ses journalistes qui enquêtaient sur les affaires Karachi et Bettencourt. Mediapart a l'intention de faire citer une trentaine de témoins parmi les lesquels de nombreuses personnalités politiques. La communauté juive de France apporte son soutien aux chrétiens coptes. Le consistoire condamne sans appel toutes les violences et tentatives d'intimidation et exprime sa profonde solidarité avec la communauté copte de France, ainsi qu'avec tous les chrétiens d'Orient. Les coptes célèbrent ce soir le Noël orthodoxe. Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, assistera ce soir à la messe de minuit dans l'église de Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Le président du Conseil français du culte musulman ainsi que l'évêque de Nanterre seront également présents, moins d'une semaine après l'attentat d'Alexandrie en Égypte. La surveillance est renforcée autour des 19 édifices coptes de France. Et puis un rassemblement de soutien est prévu demain après-midi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Tous les jours.
Stéphane, si vous voulez bien.
À partir de 11h.
Le fou.
Ouais.
Du roi.
Stéphane Bern.
Ah ben c'est son heure, hein, c'est midi, il est tout excité.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Fanny Cottençon et Pierre Arditi, rendez-vous demain vendredi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Cela dit, tu peux le dire gentiment.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi. Stéphane Bern.
Eh ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter. À partir de 11h.
France Inter et le théâtre Nanterre-Amandier présentent du 7 janvier au 12 février Ithac. Jean-Louis Martinelli s'empare de l'épopée d'Ulysse et plonge au cœur de la Grèce antique avec Ithac de Boto Strauss. Charles Berling incarnera Ulysse et Ronnie Telkabetz Pénélope, entouré d'une vingtaine de comédiens pour nous conter ce récit épique. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h et presque 5 minutes sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric L'Odéon. C'est le carrefour de l'Odéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, une transcription pour commencer. Est-ce qu'on a le droit de toucher à la musique des autres? J'ai déjà répondu oui, bien sûr, si on fait quelque chose de très bien, de mieux, peut-être, si c'est possible. Avec Jean-Sébastien Bach, c'est difficile de faire mieux. Pourtant, Max Reger s'est attaqué, avec beaucoup d'amour, à pas mal d'œuvres du grand cantor, comme on le dit avec respect, du grand Jean-Sébastien Bach, pour donner des transcriptions pour piano au départ. Ce sont des pièces pour orgue, que ces préludes, qui sont à la fois un choral et un prélude. Et en voici un dont le texte dit « Je veux te dire adieu », et Max Reger, lui, nous a dit adieu assez rapidement. C'est un Bavarois de naissance. Il a enseigné à l'université de Leipzig et il a dirigé l'orchestre de Meiningen entre 1911 et 1913, avant de s'installer à Iéna. Et sur la fin, il voulait écrire une symphonie, mais il n'a jamais eu le temps, parce qu'il n'avait que 43 ans lorsqu'on l'a trouvé mort dans une chambre d'hôtel, probablement victime de toute une vie d'excès et de boissons. Ben, dommage, mais enfin, il nous laisse, en tout cas, ses transcriptions, quelques belles pièces pour alto, pour violoncelle, etc., etc.